dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Invalidation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya. Un nouveau scrutin devrait avoir lieu dans les 2 mois. En France, Emmanuel Macron, le président, s'implique dans la sortie de crise au Liban et en Syrie. Et au Texas, malgré l'amélioration météorologique, de nombreux quartiers sont encore sous les eaux. Nous débutons donc ce journal avec la Cour suprême du Kenya qui a ordonné l'organisation de nouvelles élections et invalide du coup la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, le tout en raison d'irrégularités. Le nouveau scrutin devra donc être organisé dans les 2 mois. Dans une allocution à la télévision, le président Kenyatta a appelé au calme et au respect de la décision de la Cour suprême. Les explications depuis Nairobi avec Laurent Kourou.
Premier des deux rivaux à s'exprimer, Raila Odinga, qui était donné perdant du scrutin. Le chef de l'opposition a parlé de jour historique pour le peuple kényan, mais aussi par extension pour les peuples du continent africain. Raila Odinga a indiqué qu'il n'avait plus confiance dans la commission électorale et que selon lui, une nouvelle équipe devait être désignée pour conduire la nouvelle élection présidentielle. Résigné, le président sortant, Uhuru Kenyatta, a déclaré pour sa part qu'il se pliait à la décision de la Cour suprême. « Je ne suis pas d'accord avec elle, a-t-il dit à titre personnel, mais je la respecte autant que je suis en désaccord avec elle. Des millions de Kenyans, a-t-il ajouté, ont fait la queue, ont fait leur choix, et 6 personnes ont décidé qu'elles iraient contre le choix du peuple. Kenyatta a également annoncé sa volonté d'être candidat au nouveau scrutin qui aurait lieu d'ici 60 jours. Dans la décision qui a été lue par le juge-président David Maraga, la Cour suprême a estimé que l'élection présidentielle n'avait pas été conduite en accord avec la Constitution. Plus précisément, la Cour suprême a mis en cause la commission électorale qui a, dit-elle, échoué, négligé ou refusé de conduire les élections en accord avec la Constitution. Le juge-président a indiqué que des irrégularités avaient été commises dans la transmission des résultats.
Voilà, c'était Laurent Kourou pour RFI. Faisons le point sur les commentaires autour de cette invalidation au Kenya. Depuis Nairobi, Noël Foy, Alice Poziki.
Il n'aura fallu que quelques minutes avant que Raila Odinga ne commente l'annonce de la Cour suprême. Les résultats de l'élection invalidés, la décision est historique, s'est félicité le chef de l'opposition kényane.
For the first time in history of African democratization.
Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation en Afrique, un jugement a été rendu par une cour pour dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un chef d'État qui est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour suprême pour ce qu'ils ont fait pour la postérité.
Changement de ton dans le camp d'en face, la voix grave, le débit lent. Le président sortant Uhuru Kenyatta a déclaré qu'il respectait la décision de la Cour suprême.
Je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise aujourd'hui, mais je la respecte. Je ne suis pas d'accord parce que des millions de Kenyans ont fait la queue, ont fait leur choix, et 6 personnes ont décidé d'aller à l'encontre de ce choix.
Proclamé vainqueur le 11 août dernier, Kenyatta n'a pas dit son dernier mot. Le président sortant a annoncé qu'il serait à nouveau candidat à l'élection organisée d'ici 60 jours.
Et c'était Alice Poziki pour RFI à Nairobi. 13h04, la France souhaite organiser une conférence sur le retour des réfugiés syriens et une conférence sur les investissements au Liban. C'est en tout cas le souhait du président français Emmanuel Macron. Il a affirmé ça au Premier ministre libanais qu'il avait reçu à l'Élysée pendant près d'une heure. On écoute Emmanuel Macron, le président français.
Je souhaite que nous puissions avoir, durant le premier trimestre 2018, à la fois une conférence des investisseurs qui pourra se tenir, si vous le souhaitez, à Paris, afin de mobiliser l'ensemble des financements publics et privés pour aider le Liban à tous les développements économiques qui permettront aux Libanais, mais également à l'ensemble des réfugiés impliqués, de se développer avec de nouveaux projets et des financements dédiés. Et toujours durant le premier trimestre 2018, de pouvoir organiser une conférence du retour des réfugiés dans leur pays, impliquant les principaux pays accueillant des réfugiés dans la région, pour que cette question soit pleinement prise en compte dans le processus politique, pleinement prise en compte dans l'accompagnement économique et financier pour la région, et soit une donnée de base dans la stabilisation durable de la Syrie et de toute la région.
Voilà donc le président français Emmanuel Macron. Écoutons l'analyse et le décryptage donc de cette déclaration et de ces nouveaux changements dans la politique française avec Muriel Paradon pour RFI.
Une transition politique en Syrie doit-elle se faire avec ou sans le départ de Bachar el-Assad? Évidemment qu'il doit partir, répond le Premier ministre libanais au journal Le Monde. Si la communauté internationale veut une solution à long terme en Syrie, c'est la seule solution. Et il accuse le régime de faire de la figuration. La Russie et l'Iran contrôlent véritablement le pays, selon lui. Il faut une solution politique crédible, renchérit Saad Hariri, sans quoi il y aura encore pire que Daesh. Le Premier ministre libanais revient par ailleurs sur l'accord passé en début de semaine avec des combattants de l'État islamique pour qu'ils quittent librement le Liban. Il s'agissait en échange de retrouver les corps de soldats libanais enlevés et tués par Daesh. Mais, affirme Saad Hariri, le transport des djihadistes en bus vers l'est de la Syrie a été décidé par les Syriens et le Hezbollah, la milice libanaise qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Ce transfert de djihadistes vers la frontière irakienne a provoqué la colère de Bagdad et celle de la coalition menée par les États-Unis qui y voient une nouvelle menace pour l'Irak.
Et c'était Muriel Paradon pour RFI. 13h07 aux États-Unis maintenant. La décrue continue à Houston à la faveur du beau temps. Mais au fait de lâcher d'eau dans les barrages, eh bien l'eau monte dans certains quartiers qui avaient été jusque-là épargnés par l'ouragan Harvey. Reportage Anne Copré.
Sam Hahn enfile des gants et une combinaison de plongée avant de monter dans une barque prêtée par des amis. L'eau est très sale, explique-t-il. Je ne veux pas attraper de maladie. Mais Sam n'a pas de rame, alors il utilise des balais brosses à la place pour pagayer jusque chez lui, où il veut récupérer du linge propre. Ici, l'eau a encore monté cette nuit après un nouveau lâcher d'eau du barrage d'Adix situé au nord-ouest. L'ouvrage menace de céder sous la pression et les autorités n'ont pas d'autre choix que d'inonder ce quartier. Sans cela, un tsunami menacerait la ville, explique Sam, philosophe. Cynthia Nelly, elle, est furieuse. Membre de l'association Riverains contre les inondations, elle milite depuis 5 ans pour tenter de convaincre la municipalité d'agir pour améliorer le réseau d'évacuation des eaux. Cette année, ils ont investi massivement dans l'élargissement des rues, la rénovation des feux rouges et l'achat de voitures de police. Pas un copec n'a été dépensé pour prévenir les inondations, s'indigne-t-elle. Et elle ajoute, à chaque catastrophe, c'est la même chose. Les autorités blâment la mère nature, mais s'ils faisaient le nécessaire, il y aurait eu 30 cm d'eau dans ma maison au lieu d'1,50 m. Et Nelly chausse ses bottes avant de s'installer dans un kayak pour retourner chez elle.
Un reportage donc depuis le Texas avec Anne Corpet pour RFI. Écoutons également d'ailleurs ce témoignage de ce Français. Il s'appelle Philippe Dambournet, il est expatrié à Houston. Pour lui, il y a peu de chances que les choses changent à l'avenir. On l'écoute.
Il y a déjà eu des rapports spécialisés qui ont fait suite notamment à Katrina et à Rita, des grandes tempêtes, des ouragans qui ont affecté New Orleans et ensuite Houston il y a plus de 10 ans. Et malheureusement, mais ça c'est parfaitement prévisible dans l'état du Texas, aucune initiative sérieuse n'a été prise depuis. Autrement dit, nous avons une infrastructure qui est très vulnérable et qui a été maintenue dans cet état de vulnérabilité parce que cela convient très bien aux intérêts en place, notamment aux intérêts immobiliers, mais aussi à l'énergie pétrochimique qui préférerait augmenter ses dépenses de fonctionnement. Au-delà de ça, si vous regardez ce qui s'est passé sur Houston, Houston a connu une croissance complètement échevelée depuis plus d'une décennie. Ils ont bétonné à tout va dans une plaine inondable dont les sols sont déjà argileux et sablonneux. Donc tout cela était prévisible et a été prévu. Il y a un certain nombre de commissions, d'ingénieurs, de scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme et on les a ignorés.
Voilà donc témoignage de ce Français Philippe Dambournet qui est expatrié au Texas. Un volet médical maintenant dans ce journal et cette avancée qui donne de l'espoir dans la lutte contre les cancers hématologiques, c'est-à-dire les cancers qui frappent le sang des malades. L'Agence américaine du médicament a autorisé la mise sur le marché du Kimra. C'est un médicament de thérapie génique qui modifie l'ADN des cellules malades pour leur apprendre à combattre la maladie. Tout simplement, Sébastien Armigorena est le directeur de recherche sur les cancers à l'Institut Curie de Paris. On l'écoute.
Donc, c'est des patients qui ont un cancer des lymphocytes B. Les lymphocytes B sont les cellules qui produisent les anticorps. Donc on prend leur sang et on purifie, on isole une population de lymphocytes différents de celui qui est malade, de celui qui est cancéreux, qui s'appelle les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, on les modifie génétiquement en dehors du corps du patient, dans des tubes à essai. On leur met un gène qui leur permet de reconnaître spécifiquement les cellules tumorales. Et une fois qu'on les a expandus, activés in vitro, dans des tubes à essai, on les réinjecte aux patients. Et à ce moment-là, les lymphocytes T sont armés et on leur a en quelque sorte appris à reconnaître les cellules tumorales. Elles vont aller se coller physiquement aux cellules tumorales et les éliminer. C'est un médicament qui est pour l'instant individualisé. Donc à partir de chaque patient, on fabrique un médicament unique pour ce patient-là. Mais il y a différentes possibilités et perspectives pour rendre ce médicament le même pour tous les patients.
Voilà, donc Sébastien Amigorena, directeur de recherche sur les cancers à l'Institut Curie de Paris. Les constructeurs automobiles ont réussi pendant des années à bien plus ou moins truquer les résultats de différents tests de pollution ou de consommation de carburant. Mais cela serait beaucoup plus dur à partir de maintenant. En effet, en France, les tests en laboratoire devront impérativement être couplés de tests en conditions réelles, c'est-à-dire sur la route. Abla Jaoudi.
La principale nouveauté, c'est que désormais, les tests dans les conditions réelles de conduite seront obligatoires pour mesurer les niveaux d'oxyde d'azote, autrement appelé les NOx, une des principales sources de pollution de l'air. Une évolution saluée par les associations de défense de l'environnement, mais avec quelques réserves pour l'ONG Réseau Action Climat. Lorelei Limousin en est la responsable des politiques climat et transport.
Le problème, c'est que les constructeurs automobiles ont obtenu, en contrepartie de l'entrée en vigueur de ce nouveau test en conditions réelles, une marge de tolérance pour polluer plus que la norme en conditions réelles de conduite. Donc ça, c'est inacceptable de notre point de vue.
L'ONG dénonce encore le fait que les émissions de l'autre gaz polluant, le dioxyde de carbone, continueront d'être évaluées uniquement en laboratoire.
On ne sous-estime pas la créativité et l'imagination dont peuvent faire preuve les constructeurs automobiles pour détourner les nouveaux tests. Donc il faut à tout prix revoir en profondeur le système de tests d'homologation des véhicules. Donc il faut mettre en place des contrôles aléatoires en fait sur des véhicules choisis au hasard dans les parcs automobiles pour vérifier que les véhicules soient vraiment conformes aux normes.
Enfin, estiment les ONG, il serait urgent aussi de mettre fin à la connivence entre les États et les constructeurs automobiles qui autorisent les dérives.
Voilà, Abla Jaoudi pour RFI, 13h13 minutes exactement. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 16 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, il fera 17. Hobart, 18. Canberra, 18. Sydney, 22 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 28. Et Darwin, un toujours très agréable, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Invalidation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya. Un nouveau scrutin devra avoir lieu dans les 2 mois. En France, Emmanuel Macron s'implique dans la sortie de crise au Liban et en Syrie. Et au Texas, malgré l'amélioration météorologique, de nombreux quartiers sont encore sous les eaux.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench